Bonjour Lisette Lombé.
Bonjour.
Je suis ravie de vous rencontrer, de vous découvrir aussi parce que vous êtes une poétesse slameuse belge et pour la première fois vous êtes éditée en France, donc c'est une véritable découverte. Je me disais en vous lisant et en vous entendant aussi que vous portiez beaucoup de voix en vous. Alors d'abord les vôtres de voix, celle de l'enseignante, celle de la poétesse, celle de la mère, celle de l'écrivaine aussi, celle de la fille que vous êtes, entre autres choses, mais que vous preniez aussi en charge beaucoup d'autres voix, de femmes notamment, mais pas seulement, on en parlera tout à l'heure, mais des femmes soumises, fauchées, basanées, voilées, handicapées, putes, Guine, etc., comme vous les nommez et vous les citez, celles, écrivez-vous, dont on défend les droits sans jamais entendre le timbre de leur voix. Est-ce que, justement, vous qui êtes entrée assez tard en poésie, on reviendra sur votre parcours, est-ce que vous êtes entrée d'une certaine manière pour prendre en charge les voix de toutes ces femmes qu'on n'entendait pas ? Est-ce que c'est une des premières raisons ?
Non, je dirais pas ça en fait. Je pense que je suis entrée en poésie par la porte de la survie. Moi, je me suis jamais imaginée faire une carrière artistique. C'était pas je me voyais enseignante ou formatrice, mais en tout cas en lien avec la transmission, en lien avec la pédagogie, mais plutôt dans un cadre scolaire. Et c'est vrai qu'en 2015, j'ai fait un burn-out et finalement l'écriture est revenue quelque part, s'est rappelée à mon bon souvenir, mais de manière fulgurante et de manière par la porte d'entrée d'un corps qui était exsangue en fait. Donc je pense que cette réconciliation avec l'écrit, les premières voix en tout cas qui se sont fait réentendre, c'est pas des voix d'autres personnes, ça n'avait pas prétention à parler à la place d'eux, à parler d'autres personnes. C'était d'abord une question de survie, d'abord une question de résilience, de se remettre debout, de se reconnecter probablement avec cet enfant qui avait envie, qui rêvait d'écrire. Je pense que c'est ça le début, en tout cas, de la reprise avec l'écriture.
Alors ça passe par le corps que vous mettez en scène aujourd'hui aussi, le corps dans lequel passent aussi les voix, les mots que vous écrivez et que vous dites après. Le corps, il a fallu une rupture, une cassure, comme vous le dites, avec ce burn-out pour pouvoir le voir se remettre debout et exister pleinement, c'est ça ? L'idée.
Oui, mais je pense que le burn-out, c'est justement quand on ne veut pas écouter son corps, on a une réponse fracassante, quelque chose. On est un peu jeté dans les orties, on est un peu jeté sur un bas-côté. On est jusque-là, moi, je me voyais sur une trajectoire assez rectiligne. Voilà, l'université, la maternité, l'enseignement. Et puis, ça m'a mis à un endroit de grand dépouillement, où j'avais pas d'autre choix que de me regarder vraiment telle que j'étais, telle que j'avais été, sans phare et aussi sans peur. Donc c'est comme si les affects, le corps est complètement cramé, mais c'est aussi comme si les affects l'étaient aussi. Et je pense que à cet endroit-là de mort, en fait, de mort de sens, je veux dire, c'est là que l'écriture est revenue. Et ça m'a aidée parce qu'en fait, quand j'ai commencé à monter sur scène, un peu par hasard, mais quand j'ai commencé à monter sur scène, j'étais dépouillée de cette peur aussi. Donc l'année qui a suivi le burn-out, c'était une année où je me suis trouvée audacieuse, espiègle, mais par... parce que la maladie, en fait, avait tué la peur.
Finalement, ce que j'entends, c'est le parcours de quelqu'un qui a décidé d'être dans la norme, avec une vie, comme vous dites, bien tracée, normale, de femme qui travaille, en plus dans un travail très rigoureux, on va dire, très cadré aussi, avec des enfants, une fille de famille normale. Il a fallu ce burn-out pour se dépouiller, pour se regarder entièrement, faire un pas de côté et de se dire, non, finalement, ce que je veux, c'est autre chose.
Oui, après, je pense que cette vie droite, c'est une vie qui est donnée par, par les parents. J'ai un père congolais et je pense que la question de la migration, de l'immigration, fait aussi cette vie droite. C'est-à-dire que mon père, je pense, et mes parents ont rêvé de cette vie droite. On souhaite aux enfants de réussir leur vie. Donc, c'est-à-dire réussir l'intégration, c'est faire des études, c'est faire plus d'études que ses propres parents, c'est aller à l'université, être la première universitaire de la famille. Je pense que j'ai été élevée sur ce chemin-là. Et puis la suite, voilà, les études de lettres mènent à l'enseignement, les études de médiation mènent à la formation en éducation populaire, éducation permanente. Et la suite, ben voilà, c'est le dernier virage vers de l'artistique. Mais il y a un lien, il y a quelque chose qui est tissé quand même avec l'amour des mots, avec la question de la transmission, de la pédagogie, la poésie, enfin, depuis l'enfant jusqu'à maintenant. Il y a quand même un fil rouge.
On reviendra sur ce fil rouge, sur l'enfance aussi, sur le Congo aussi, puisque vous le convoquez aussi dans ce livre « Brûlé, brûlé, brûlé », paru dans cette nouvelle collection de l'iconoclaste, l'Iconopop, une collection qui est dirigée par Cécile Coulon et Alexandre Bord. Puisque finalement on est dans l'enfance, restons-y. Cécile Coulon, qui vous édite, disait un jour dans une émission de radio que le premier souvenir de lecture liée au livre et à la lecture venait de vraiment la petite enfance à 4-5 ans quand sa mère lui lisait des histoires. Ça veut dire que le livre, les mots sont rentrés en elle d'abord par la voix, par les voix. Est-ce que vous aussi, un de vos premiers souvenirs liés aux mots, aux histoires, aux livres, est aussi venu par la voix et par les histoires qu'on pouvait vous raconter?
Et là, je dois être honnête, moi j'ai peu de souvenirs de ma petite enfance, mais j'ai la chance d'avoir une sœur qui est également poétesse et slameuse, qui elle en a beaucoup, donc c'est elle qui m'a remis ça en mémoire il n'y a pas longtemps, de notre père qui nous lisait des bandes dessinées de Tintin, justement, le dimanche soir. On a des photos, mais j'ai pas de souvenirs de ça, mais je vois sur les photos que mon père nous lisait des livres très petites. Par contre, j'ai un souvenir très précis du premier livre que mon père m'a offert, parce que c'était au fait de cloche de Pâques, donc en fait, voilà, avec cette tradition des cloches de Pâques qui apporteraient des cadeaux aux enfants, et donc on était partis jouer, et quand on est rentré, ma sœur a eu une poupée, une Barbie, et moi j'ai eu un livre, et voilà, je ne l'ai pas bien pris, j'ai pas compris le cadeau que je recevais, c'est pas quelque chose qui m'a fait plaisir, mais néanmoins dans ce livre, qui était un livre de la comtesse de Ségur, mon père a mis une dédicace en disant que ce premier livre soit le premier d'une longue liste de livres qui t'accompagneront dans la vie. Donc c'est seulement rétrospectivement et longtemps après que j'ai compris l'importance de ce cadeau-là, mais sur le coup, ça m'avait échappé. Mmh.
Il faut du temps, il faut des mots peut-être, pouvoir poser des mots pour revenir sur des choses qui nous ont construites aussi. Brûlé, 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 le titre de ce recueil de textes est aussi le titre d'un des textes, d'un des poèmes qu'on trouve là-dedans, qui raconte justement l'histoire de quelqu'un qui a été nourri d'interdits et qui un jour se libère totalement pour oser. Est-ce que finalement c'est aussi ça que vous nous racontez, c'est que cette vie d'interdits, normée, etc., un jour il faut pouvoir respirer, se relever et oser faire des choses qui étaient complètement interdites avant.
Alors moi, j'ai pas eu une vie au sens d'interdit comme ça. Je pense que je m'en suis mis beaucoup. Que du contraire, je pense que mes parents nous ont élevés dans quelque chose de très libre. Et puis je suis née en 1978, donc j'étais enfant dans les années 80, qui est en Belgique une époque avant l'affaire du trou. Donc moi, j'ai eu une enfance très libre, très partir par Mons et par Vaud pendant que mes parents travaillaient dans la journée. Donc je me suis pas vécue comme ça. Je pense que moi, j'ai une adolescence ultra sportive. Je suis l'aînée d'une famille, j'ai une adolescence ultra sportive. Donc, je veux dire, le cadre, je me le suis mis aussi. Puis, il y a eu cette éducation, voilà, ces études-là. Mais je ne qualifierais pas, moi, ma vie d'injonction, d'interdit. C'est plutôt quelque chose, je dirais plutôt une vie normale, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'on fait des études, et puis on fait des études supérieures, et puis on trouve un métier, et puis on se marie, et puis on a des enfants. Et ce n'est pas une vie d'interdit, en fait. C'est une vie dans la société société dans laquelle on vit, hétérosexuelle, patriarcale, c'est plutôt une vie somme toute normale. Après, il y a des personnages dans le recueil qui, eux, sont des personnages qui doivent faire face aux interdits. Des jeunes femmes qui sont peut-être dans d'autres pays, dans d'autres situations, dans d'autres sociétés, avec vraiment des interdits pour le coup. Quand on pense à des pays où voilà, on n'a pas le droit de s'habiller comme on veut, on n'a pas le droit de circuler dans l'espace public comme on veut, ça parle de ça aussi.
Qu'est-ce qui fait que vous avez et c'est le sentiment qu'on a quand on lit ces poèmes où je disais qu'ils convoquaient beaucoup de voix, beaucoup d'autres histoires aussi, aussi bien une histoire de mère dont la fille va partir en Syrie et se radicaliser, ou l'histoire de viol aussi, qui sont exprimées. Et ici, qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment que vous avez effectivement eu envie d'être un peu... un porte-voix d'une certaine manière, même si peut-être le terme ne vous plaît pas, mais d'avoir un certain engagement par l'écriture de toutes ces paroles empêchées, comme je le disais dès le départ, ces filles qu'on voit peut-être, mais dont on n'entend pas les voix. Il y a comme un engagement sur le tard et le sentiment que la littérature, que la poésie peut faire quelque chose, et peut-être même dans l'idée que la poésie est aussi politique.
Oui. En tout cas, les débuts, il y a quelques textes qui sont porteurs de ça. Les débuts, c'est quelque chose de très cathartique et c'est un vrai jeu. Donc, c'est-à-dire, c'est une poésie pour se remettre debout et pour récupérer de la fierté dont les racines. Et les textes sont porteurs de cette quête identitaire-là, de ce besoin en tant que personne métisse, où on dit le cul entre deux chaises, de vraiment reconstruire une troisième identité qui est très alignée et qui est très, qui intègre toute la culture belge, toute la culture congolaise, et qui est apaisée aussi parce que c'est un endroit de parole. C'est de cet endroit-là que j'ai envie de donner des choses à mes enfants. Donc il y a ça, et puis il y a, je pense que les textes, comme ils sont écrits, ils sont liés à mon engagement féministe aussi, ils sont liés à mon métier de formatrice en insertion socio-professionnelle, et ils sont liés aux rencontres avec les femmes que j'ai rencontrées dans mes ateliers. Et donc effectivement, c'est pas parler à leur place, mais c'est grâce à ça, grâce au texte, pouvoir quand même faire remonter des réalités très différentes. Nous, les femmes, voilà, pouvoir parler de femmes qui apprennent le français, pouvoir parler de femmes qui sont dans des situations difficiles, mais par le truchement du texte poétique, par le truchement d'histoire, pouvoir parler aussi de la grande histoire, de la question, par exemple, du colonialisme, mais par des personnages, voilà, à travers... c'est important pour moi d'avoir une poésie. C'est pour ça que je dis petites histoires. C'est pas il y a des textes avec des rimes, mais c'est surtout de la prose poétique. D'essayer de construire une petite narration, d'amener des personnages et de parler du social, parce que c'est une poésie sociale. Une libraire utilisait ce mot-là plutôt que poésie engagée. C'est quelque chose qui me convient bien. C'est une poésie sociale, mais qui passe quand même aussi par de la fiction, de l'autofiction, des personnages.
Est-ce que c'est finalement pas la définition de la poésie et du poète? C'est celui finalement qui met beaucoup de lui, hein, c'est ce que vous disiez. Vous ouvrez ces textes sur le jeu et sur le Congo, et on y reviendra sur ce Congo qui est très important. Vous, d'ailleurs, la couleur de peau que vous portez parle déjà de ce que, d'où vous venez finalement, ou d'où viennent en tout cas vos ancêtres, et votre père en l'occurrence. Mais le poète est aussi celui qui est le pont du monde qui l'entoure. Est-ce que c'est pas aussi ça, le poète, celui qui est ancré aussi dans son monde et qui est capable d'écouter et de prendre tout ce qui se dit autour de lui?
En tout cas, ça correspond à ce que je sens. Mais comme je viens de la scène slam, pour moi, ça semble évident. C'est-à-dire, c'est une poésie qui est connectée au social, qui est connectée à la pulsation du monde. Les scènes slam, ça s'organise mensuellement. Donc, on monte sur scène pour dire un texte sur quelque chose qui nous a chamboulé là, dans le mois, dans les semaines, juste avant. Donc, il y a de ça, oui. Il y a de cette connexion au monde et qui est assumée, donc qui n'est pas, c'est pas une poésie engagée dans le sens galvaudé, quelque chose qui serait plié au réel, quelque chose qui serait esclave du réel, de dire pour dire les choses, de la dénonciation, quelque chose qui serait de l'ordre du pamphlet. Moi je milite quand même pour que cet endroit-là de poésie, cette poésie sociale-là, puisse être reconnu comme quelque chose de littéraire, comme avec un travail sur la langue, avec des choix esthétiques, c'est-à-dire que pour moi, cette poésie-là, elle doit être accessible. Donc je vais donc du coup avoir aussi une forme qui est accessible. Et quand j'écris, je réfléchis à ça aussi. Je veux pouvoir, avec un texte, par exemple, comme Asma, comme Mon fils est gay, il faut que je puisse aller, par exemple, dans les classes, que ça puisse être un déclencheur de discussion avec les élèves, avec les étudiants. Des textes comme La famille, je dois pouvoir aller les dire devant un public de femmes qui sont aussi dans des associations. Et en même temps, comme maintenant c'est un objet livre, voilà, qui a une confiance d'une maison d'édition, parce que nous, en tant que slammer, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Le texte, normalement, il est dit sur scène, il est partagé avec un public. Le livre, c'est comme un beau cadeau final, mais qui n'est pas rêvé, en fait. Donc, du coup, je suis à cet endroit-là. Je milite pour que ce soit quand même reconnu comme du littéraire, que ce soit reconnu comme de la poésie. Parmi les multiples formes de la poésie, il y a de la poésie plus classique, plus écrite, plus hermétique. Et il y a aussi cette poésie-là qui est de la prose poétique, qui est quelque chose qui travaille sur le souffle, qui travaille sur le rythme, qui travaille sur l'oralité dès le début de la table d'écriture et qui est connectée non seulement à la pulsation du monde, mais qui est connectée aussi au public, au sens du partage qu'il y a dans les micros ouverts de slam.
Qu'est-ce qui fait écrire ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans la journée, vous prenez votre stylo ? Ou peut-être que ça commence d'ailleurs dans la tête, avec des mots plutôt que par le stylo, vous allez me le dire. Mais qu'est-ce qui déclenche ça ? Un mot, quelque chose plus de l'oral ou quelque chose plus du visuel ?
Ben, pour moi, mon déclencheur d'écriture, c'est d'abord pour une injustice. Ça, c'est mon plus gros moteur d'écriture, c'est la colère. En fait... Alors, ça a été beaucoup au début des choses, des injustices dont moi j'étais victime, et il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Il fallait que ça se mette en mots pour ne pas que ça tourbillonne à l'intérieur du ventre. Et après, je ne nous souhaite pas d'être victime d'injustices en permanence. Donc, des injustices, il y en a plein autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et donc, quand je vois, quand j'entends, quand je lis quelque chose qui me remue très fort, ça se transforme directement, presque automatiquement en écrit. Ça, c'est pour une première phase des poèmes. Après, maintenant, je suis à un endroit d'écriture, les textes commencent à s'allonger. Même dans ce recueil-là, il y a un texte qui s'appelle « Et s'il n'en restait qu'un ?» On est presque dans du conte poétique. C'est quelque chose qui s'éloigne du slam, qui s'éloigne de cet élan de slam, de cette urgence à dire du slam. Les textes sont en train de s'allonger, et là moi je sens que il y a toujours, mais c'est moins une espèce de réponse spontanée à quelque chose qui vient me taper dans le ventre, que vraiment maintenant des rendez-vous où je me dis j'ai identifié dans le processus créatif le moment d'écriture qui est l'aube, donc je me mets rendez-vous et je mets rendez-vous à mon écriture à l'aube, quand tout le monde dort encore, quand la maison est calme, et je sais que là le créneau 5h 7h je dois plonger dedans avant que d'être aspiré dans la grande course quotidienne, et puis à certains moments me remettre à cette écriture, et le soir aussi quand les défenses s'abaissent et qu'on est moins dans quelque chose de réfléchi et qu'on revient vers ce grand souffle inconscient, c'est aussi un moment que je dois choper pour écrire.
Et il y a les jours où les mots ne viennent pas. Il y a les jours où le silence s'installe, écrivez-vous, et vous collez ces jours-là. Ça veut dire qu'il y a aussi des moments, des colères qui vous laissent sans voix et qui laissent ce silence-là. Pourquoi perdrais-je encore salive et énergie à essayer de convaincre ceux et celles qui nous résument, nous, êtres humains de couleur, à des nuisibles ? Alors je ne dis plus rien, je colle.
Oui, le collage, C'est l'exutoire quand il n'y a plus de mots, quand il y a... heureusement, je crois que c'est ça qui me sauve aussi, c'est que ma poésie a différentes textures et que en fonction du temps, en fonction de ce qui se passe, ça peut être des mots, mais ça peut être aussi ces images-là. Pour moi, c'est la dimension graphique de cette poésie. C'est un endroit qui précède l'écriture où je trouve parfois, quand on est à la recherche peut-être d'une métaphore inédite ou de quelque chose, alors que là, c'est comme si ça existait, ça préexiste en fait à la création, puisque j'ouvre les magazines, les images sont là, et puis il y a une forme magique, c'est-à-dire de transformation. On découpe les images, on recompose le monde. Pour moi, c'est très lié au processus quand même de l'écrit, parce qu'en poésie, on se joue du dictionnaire, on se joue de la grammaire, on peut créer des mots, on peut créer des formes. Là aussi, c'est recomposer le monde avec des images, c'est se métamorphoser. Ben voilà, moi, si je prends par exemple la tête d'Angela Davis, je peux couper dedans, donc me voilà coiffeuse, je peux apparier des corps avec d'autres têtes, je peux modifier le cadre, modifier le décor, je peux aussi prendre des papiers qui viennent d'époques différentes. Je pense à un collage où ce sont des registres comptables de l'entre-deux-guerres et sur lequel j'ai collé des mannequins allemandes des années 60. Voilà, deux papiers, parce que chiné en brocante, deux papiers qui ne devaient pas se rencontrer, et puis tout d'un coup se rencontrent. Mais pour moi, c'est comme dans la métaphore, quand il y a deux mots qui se rencontrent, dans l'oxymore, des mots qui se rencontrent, qui ne devaient pas se rencontrer, et qui créent une brèche, là, et il se passe quelque chose. Pour moi, c'est l'endroit où la poésie rentre.
Et ces collages sont, enfin, certains des collages sont dans ce livre Brûlé, brûlé, brûlé. Il y a les collages. Et puis il y a aussi des fantômes dans votre livre. Il y a quelques fantômes, ou en tout cas quelques figures, quelques personnes que vous convoquez, ou à travers les mots, ou à travers la mémoire, ou le souvenir. Et notamment, vous utilisez quelques mots de Patrice Lumumba, qui est un des héros de la lutte anticoloniale au Congo, qui a été assassiné il y a 60 ans maintenant, en 1961, dans un des premiers poème que vous nous offrez à lire, vous utilisez quelques-uns de ces mots. C'était important pour vous d'ouvrir presque ce livre-là, ce recueil, brûlé, 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 par des mots de cet homme qui est d'ailleurs mort très jeune, hein, je crois qu'il avait 34 ou 35 ans, et qui a défendu finalement le Congo jusqu'au bout, et la libération du Congo.
Oui, alors ces mots sont très importants parce que, en fait, ce texte-là, c'est le premier texte qui oubliera. C'est le premier texte que j'ai dit sur scène. Invité justement pour une commémoration autour de Patrice Lumumba. Et à un moment où je me disais, tiens, c'est marrant, on n'est plus dans cette colonisation, mais on est dans ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire les reliquats, et comment on reste ça. C'est-à-dire, moi, je reste physiquement liée à mon altérité. Je reste physiquement la fille de mon père. J'ai un Congo qui est tatoué sur mon visage, même si je me sens plus belge que congolaise. Donc ça parle de ça et de comment cette altérité qui est portée sur le visage nous renvoie dans les cordes et nous lie à moult discriminations et à toute une série de plafonds de verre. Alors pour être honnête, ici dans le recueil, c'est pas moi qui ai choisi l'ordre, donc c'est mon éditeur Alexandre Bord qui a choisi l'ordre, mais en toute c'est une magnifique collaboration, et c'est aveuglément que je l'ai suivi et que je le soutiens dans cet ordre-là. Donc oui, il arrive assez tôt parce qu'il est emblématique, ce texte. Il arrive assez tôt parce qu'il est politique, parce qu'il dit aussi, il explique d'où je parle. Donc il est important. Et oui, il est là au début parce qu'il donne le ton aussi de ce qui va suivre et de cette poésie sociale.
Oui, et puis il est très fort, ce texte. Et puis il s'adresse aux autres, aux tu ou vous, et il est aussi, il parle de la mémoire, et la poésie est aussi le lieu de la mémoire aussi.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi j'ai repris ce qui est un peu fou avec ce texte, c'est que Il faut vous imaginer que je l'ai dit donc une semaine après mon diagnostic de burn-out et dans un moment qui est infralittéraire pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment où je me dis slameuse ou poétesse. Je suis une femme malade qui monte sur scène, qui s'est fait agresser dans un train et qui vient dire un texte pour se remettre debout, en fait. Pour se remettre debout et... qui est dans une forme de... Aujourd'hui, par exemple, je ne prendrai plus ces 4 vers de Patrice Lumumba parce que je suis dans un travail littéraire, alors que là, on est dans un cadre de commémoration. Je les cite, je les lance pour faire hommage à Patrice Lumumba. Et aussi, c'est déjà une poésie orale. C'est ça que je trouve beau dans ce texte. Et c'est pour ça, je pense que je suis contente qu'il soit à cet endroit-là du recueil parce que ce texte, je l'ai étudié par cœur. Dans cette première montée, je l'ai étudié par cœur, il fait moins de 3 minutes et il est politique, donc en fait c'est un texte de slam, mais moi je ne sais pas ce que c'est le slam à ce moment-là, et il est déjà participatif, donc c'est-à-dire que moi je disais au public qui était majoritairement d'origine congolaise dans cette salle du Beaux-Arts, qui oubliera, et j'ai demandé au public de répondre pas nous, et en fait il s'est passé quelque chose dans cette salle pour cette première montée sur scène, j'ai senti quelque chose dans mon corps, parce que moi je l'avais répété devant une collègue avec une cuillère en bois. Donc je lui disais qui oubliera, elle m'avait dit pas nous. Et là, en montant sur scène, j'ai dit qui oubliera et j'ai senti, voilà, il y avait 200 personnes, le pas nous qui tourne et qui revient frapper à un endroit où, voilà, à la descente de scène, ma mère était dans le public. Je lui ai dit, en fait, je ne retournerai pas travailler. Puis voilà. Ah, tu es mère de famille, tu as 3 enfants, tu as un CDI, temps plein. Mais j'ai senti dans quelque chose qui m'est revenu et je me suis sentie à ma juste place, même si les arts de la scène, ça n'avait pas... C'était pas pour moi. Enfin, voilà. Je ne venais pas des arts de la scène, mais j'ai senti une justesse à être là. J'ai senti une justesse dans ces mots-là. Et après, c'est question de rencontre et de hasard, puisque dans la salle, il y avait une metteuse en scène qui m'a proposé de participer à un concours slam juste après, en fait, dans la foulée.
Alors ça, c'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Oui. Qu'est-ce que le slam, précisément? Aujourd'hui, vous le savez, puisque vous le pratiquez. Comment le définissez-vous? Mis à part, alors, le slam, c'est on monte sur scène, on dit un texte sans musique. Hein, la musique, ce sont nos propres mots, c'est notre propre musicalité. Et ça dure 3 minutes. En gros, c'est ça, je le résume comme ça. Mais qu'est-ce que c'est profondément que le slam?
Pour moi, profondément, bah, déjà, dans les personnes qui tentent de le définir, c'est pas un genre de poésie. C'est plutôt le dispositif, c'est-à-dire un endroit, un lieu, un moment, avec des règles particulières qui font que cette poésie est partagée de manière démocratique. Donc, tout qui a écrit un texte, enfant, adulte, peu importe, peut monter sur scène et partager ce texte. Donc, que ce soit... ça efface le fait qu'il n'y a que les personnes éditées qu'on entend partager de la poésie. N'importe qui peut venir dire son texte. Le fait, les 3 minutes, ça met un dispositif où il y a une répartition égalitaire du temps de parole. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre 30 minutes sous prétexte qu'on est connu ou sous prétexte qu'on est homme. Enfin, peu importe, c'est 3 minutes. Et donc ça nous apprend aussi l'humilité à l'intérieur des autres voix. Donc les soirées sont magnifiques parce que c'est pluriel, parce que toutes les 2 ou 3 minutes, c'est une autre personne qui vient avec un univers complètement différent, une couleur totalement différente. On passe du rire aux larmes. C'est la claque slam en anglais. Slam, c'est la claque. Hein, donc, ça veut dire que ça peut passer par le frisson, ça peut passer par le rire, ça peut passer par un coup de poing au ventre, ça peut passer par les larmes. Mais en tout cas, on se sent en vie. On est entouré de d'autres personnes qui sont dans ces émotions-là. Ce qui est magnifique, c'est que... ça circule. D'habitude, on va voir une pièce de théâtre, on reste spectatrice. On va voir un concert, on reste spectatrice. Et là, il y a quelque chose qui circule. À un moment donné, on est spectatrice, on encourage la personne qui est sur scène. Et puis, on sait qu'après, on va monter sur scène. Donc, il y a une circulation, il y a une humilité. C'est un endroit où on ne possède pas la poésie. Pendant 3 minutes, la lumière est là sur nous. Mais après, il y a cette... on a juste dit son texte. Puis, oups, ça tourne, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Les entrées sont gratuites ou à prix libre. Donc, ça questionne aussi aussi l'accessibilité à la culture. Donc pour moi, c'est à la fois un lieu culturel important, mais c'est aussi pour moi la manière dont s'est construit le dispositif. C'est très politique aussi, la gratuité, l'égalité dans le temps de parole, la bienveillance, le non-jugement, l'encouragement, la réjouissance pour autrui, de voir quelqu'un qui monte sur scène pour la première fois, qui est tout tremblotant, avec une voix chevrotante, d'avoir ce public voilà, qui encourage, qui sait qu'on a été à cet endroit-là à un moment donné et qui sait comme c'est important pour les personnes. Et puis aussi, moi, comme je suis dans une assoce qui donne des ateliers d'écriture pour les femmes, quand je vois ces femmes qui montent sur scène pour la première fois, il y a encore autre chose qui s'active. C'est vraiment d'avoir aussi une fierté de créer un lieu d'expression qui permet aux gens non seulement de faire entendre leur texte, mais qui permet aussi aux gens d'être à un endroit, ils sont debout en fait. Et c'est cette position debout qui pour moi symboliquement fait que j'ai découvert tardivement le slam, mais que ça va pas me lâcher, ça va plus me lâcher en fait.
Alors c'était ma question qui venait parce que je me disais que vous aviez construit votre seconde vie de poétesse au sein de ce qui est plutôt de ce qui ressemble à du collectif, hein, dans l'échange, vous le disiez, votre première expérience avec ce retour du public qui vous renvoie ses propres mots et qui viennent vous toucher ici. Vous avez construit un vrai collectif aussi, vous faites des ateliers, donc il y a quelque chose de l'ordre vraiment d'ensemble. Or, la poésie, c'est aussi quelque chose d'extrêmement solitaire, je pense. Est-ce que, doucement, au bout de 3 livres publiés, je crois que c'est 3 livres, c'est ça, c'est 3 livres publiés, vous n'allez pas aussi vers quelque chose d'autre qui peut-être vous mettra face à vous-même et quelque chose de plus solitaire, qui est de l'ordre juste de l'écriture de la poésie ? Et du texte, voire même plus, parce que vous disiez conte tout à l'heure. Je pensais à Nkoli Jean-Bofane, qui est aussi un auteur belgo-congolais. Hein, je crois qu'il a les deux nationalités aussi, j'espère ne pas me tromper. Qui a commencé par le conte, qui aujourd'hui fait des romans. Est-ce que quelque part, vous iriez aussi vers le conte et les romans plus tard ? Est-ce que ça, c'est dans un coin de votre tête ?
C'est dans un coin de ma tête, c'est dans mes brouillons. En tout cas, moi, très vite, en tout cas, j'ai commencé le SAM en janvier 2015 et le collectif, on l'a lancé en juin 2015, donc 6 mois après. Cette dimension-là, elle ne va pas me lâcher parce que je ne peux pas vivre, comme je suis venue tard sur l'artistique, que ce n'est pas une question vitale pour moi, la scène. Je peux partager mes textes dans les écoles ou dans des ateliers d'écriture. C'est pas une question... c'est pour ça aussi, à mon avis, que le confinement ne me détruit pas. C'est que ce n'est pas un endroit vital. Mais par contre, la dimension collective des ateliers, ça, oui. Moi, je pense que j'ai une pratique qui est liée au vaste communicant et que seul, ça n'a pas de sens, en fait. Moi, je prends plus de plaisir à présenter des nouvelles poétesses quand j'organise des événements, à programmer des cartes blanches, des premières scènes. J'ai pris beaucoup de plaisir à coordonner aussi un ouvrage collectif qui s'appelle On ne s'excuse de rien aux éditions Malmström. Avec 53 personnes, il y a des artistes, mais la plupart des femmes qui participent aux ateliers d'écriture. Et pour moi, cet ouvrage-là, il est très important aussi parce que il symbolise tout ce travail-là d'atelier, les ateliers, le fait qu'on ait interrogé les scènes slam, c'est-à-dire elles sont belles, elles sont magnifiques, mais en 2015, il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes sur scène, et il y avait, alors qu'il y a beaucoup de femmes dans les ateliers d'écriture. Et de voir qu'en 5 ans, le fait que collectivement, on a interrogé dans nos ateliers le sentiment de légitimité, illégitimité, qu'on a pu se construire collectivement, réfléchir là-dessus, réfléchir à tous les freins sur la scène, donc, c'est-à-dire le fait que ce soit organisé tard le soir, le fait que les mères de famille solo, elles peuvent pas aller à une scène slam et faire garder les enfants, les moyens de transport, l'espace public, la manière dont le texte est reçu dans le public, c'est-à-dire si vous êtes une femme en colère sur scène, vous allez apparaître comme hystérique, alors qu'un homme avec le même texte, il est fort, il envoie la sauce, etc. Donc tout ce travail-là, pour moi, et qui est, je pense, c'est la continuité de mon travail d'enseignante, c'est-à-dire de pouvoir aller dans les écoles, de pouvoir faire les ateliers, la question de la transmission, Elle est cruciale. Donc ça, cette dimension-là liée au collectif, ça aussi, c'est se cheviller au corps. Donc même si je reviens maintenant à une écriture individuelle, ça n'a pas de sens toute seule. Donc les textes, ils sont en train de s'allonger. J'essaye de me discipliner justement avec cette écriture de l'aube dont on parlait et de me dire il y a peut-être une histoire plus longue à raconter. Ça a déjà été un peu ébauché dans mon court roman Vénus Poetica qui est paru aux éditions L'Arbre à Parole l'année passée en 2020. Les textes aussi dans le recueil d'Iconoclaste, il y en a qui sont aussi en train de s'allonger par rapport au format slam. Donc je sens que je suis en essence à cet endroit-là. Voilà. Et oui, j'aimerais écrire une histoire plus longue.
Et parce qu'en réalité, beaucoup de ces textes qui sont de la poésie racontent des histoires. Il y en a un qui est particulièrement comme une petite nouvelle, même si c'est sous une forme poétique et autre, c'est « On ne quitte pas une femme qui s'habille en rouge ». Ça fait, c'est pas très long comme texte, mais ça raconte une histoire d'une femme dont on sent bien qu'on ne s'occupe plus d'elle et qui va faire quelque chose d'assez grave pour que finalement son mari la regarde à nouveau. Voilà quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, parce que il y a un début et il y a une fin. Mais toutes les autres racontent des histoires. Tous vos textes racontent quelque chose.
Oui, bah, j'ai l'impression que c'est ça. C'est des petites lumières à un moment donné sur une situation, mais peut-être avec un œil quand même chaque fois de poétesse. Et peut-être qu'il est là, plus ou moins dans le recueil, de manière différente. Il y a quand même du texte en rime aussi. Mais moi, ça m'intéresse en fait d'avoir un personnage, quelqu'un qu'on suit, quelqu'un qui peut se dire « Ah, je suis un peu comme elle, en fait. » Voilà, plutôt que de parler en jeu. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé, c'est qu'entre le début du slam, qui est souvent cathartique, il faut que quelque chose justifie qu'on monte sur scène, qu'un texte qui est là dans nos tiroirs, dans notre intimité, on a envie de le partager en public, et c'est souvent une injustice, c'est souvent quelque chose qui... c'est pour ça qu'on parle d'urgence à dire les choses. Il y a quelque chose qui doit justifier que ce texte ne reste pas dans notre intimité. Donc, il y a les textes du début sont plus de cet ordre-là. Et dans ce recueil, il y a des textes voilà, qui travaillent plus autour de personnages. Ça, c'est vrai. Et je pense que, justement, du coup, ça, pour moi, il est important parce que pour moi, c'est mes textes forts des débuts, donc qui sont liés à ma naissance en fait artistique, il y a et puis il y a l'évolution, il y a des textes qui sont des textes réflexifs sur le processus d'écriture et qui pour moi c'est très important aussi cet endroit méta où on peut remettre des mots sur ce qu'on est en train de faire et puis il y a des textes voilà le conte cette histoire là il y a des choses qui sont comme des débuts, comme des effleurements de ce qui pourrait s'annoncer d'un texte plus long.
Le premier texte, d'ailleurs, est un texte sur l'écriture, sur l'écrire physique. Les mères sont beaucoup présentes. La place de la mère est extrêmement présente dans ces textes-là. Toutes les mères, que ce soit un enfant inquiet de savoir auprès de son père s'il choisirait plutôt sa mère qu'elle en cas de danger, qu'une mère inquiète pour ses enfants. C'est un livre qui parle beaucoup des mères.
Oui, alors c'est... J'aime bien quand même qu'on dise ça aussi, parce que c'est vrai que parfois, le recueil est résumé à de la poésie aussi sociale, donc c'est comme s'il y avait des grandes luttes, mais il y a de ça aussi dedans. Mais c'est clair que la question de la maternité, enfin là je vais parler de d'où je suis, mais de la parentalité en général, mais de la maternité en particulier, c'est une thématique qui m'est chère. Parce que je suis les deux pieds dedans, donc voilà, je suis mère de 3 enfants, et le passage à l'artistique, c'est un chamboulement de vie, donc c'est une réorganisation familiale, c'est aussi de nouvelles questions, ben voilà, les femmes artistes, est-ce que être femme artiste et homme artiste, est-ce que c'est la même chose? Il y a des choix à faire, le fait simplement d'être ici pour faire l'interview, ça veut dire... ça, sur l'organisation familiale, voilà, quand on est mère solo, c'est pas simple. Mais donc du coup, c'est clair que à mon avis, tout ce tiraillement-là, ces questionnements-là, la culpabilité, ce qui apparaît comme une joie, c'est-à-dire de pouvoir voyager, de pouvoir travailler à l'international, est toujours connecté à une forme de culpabilité, en tout cas chez moi, de culpabilité, de « ok, on est loin du foyer, on travaille le soir, la nuit », et donc c'est comme si il y avait une impossibilité d'être totalement sereine à deux endroits différents en même temps. Donc ça nécessite un petit coaching de quand je suis sur scène, c'est sur scène totalement. Quand je suis avec mes enfants dans ma famille, c'est totalement aussi. Alors que, comment dire, comme c'est magnifique, hein, ce qui m'arrive, c'est magnifique. Mais comme c'est venu sur le tard et que ça m'est tombé un peu sur la tête, j'ai pu, je pense, à un moment donné, avoir l'impression, j'étais un peu comme un cheval fou. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et ça explose et c'est fulgurant parce que il y a un alignement. Donc, c'est des rencontres décisives, les choses vont très vite. Et c'est comme si j'ai eu, à un moment donné, par exemple, quand j'accompagnais mes fils à leur entraînement de foot, j'aurais voulu être ailleurs, tellement ça bouillonnait à l'intérieur. Je voulais aller écrire, j'enviais mes jeunes collègues qui n'avaient pas d'enfants et qui pouvaient postuler pour des résidences longues d'écriture ou qui pouvaient voyager sans se poser de questions. Donc j'ai eu ça pendant un petit temps, quelque chose qui m'a vraiment tiraillée et comme si je voulais rattraper du temps perdu. J'ai envié les gens qui faisaient des écoles d'art, qui savaient très tôt ce qu'ils voulaient faire et de manière qui avaient une vision très claire d'une vie artistique. Et il m'a fallu, là on est sur 5 ans, hein, mais en tout cas pendant 2 ou 3 ans j'ai éprouvé ça. Et puis j'ai eu une espèce d'apaisement qui est que les choses vont venir calmement. Que si ça a dû être comme ça, c'est-à-dire découvrir ça tardivement, mais enfin voilà, à l'entrée de la quarantaine, c'est que ça avait un sens. Que probablement, si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu avant, je n'aurais pas écrit ce que j'écris là. Et que la vie est longue, que les poétesses qui ont 70, 80, 90 ans, qui sont encore flamboyantes, existent, et que tout ça a du sens, en fait, que ça prenne ce temps-là.
On sent bien que vous pouvez tout aborder en poésie, en littérature, avec des thèmes qui sont parfois très durs, qui sont, on le disait tout à l'heure, des thèmes qui nous concernent, et notamment liés aux femmes, et il en est beaucoup question en ce moment. Quelles limites vous mettez en termes d'écriture ? Vous utilisez parfois des mots très crus, vous ne tournez pas autour du pot pour dire quelque chose. Est-ce que vous mettez des limites ? Ou pas du tout ? Ou si vous vous mettez, à quel endroit se situe-t-elle ?
Bon, pas dans le vocabulaire. Peut-être si, quand même, ma limite, c'est qu'il faut que je puisse dire à haute voix ce que j'ai écrit. Potentiellement, je peux venir... Donc, il y a peut-être des mots que je n'utiliserai pas. Je ne sais pas, je n'ai pas comme ça en tête les mots, mais peut-être. Je sais que ma sœur est une slameuse plus queer que moi, plus trash sur scène. Et donc, par exemple, quand je l'écoute dire du texte, il y a des fois des mots que moi, je n'utiliserai pas forcément. Ma limite, elle n'est pas à cet endroit-là. Elle est, je pense... quand la parole a une certaine visibilité, quand on incarne quelque chose au niveau militant, et là pour le coup c'est une militance intersectionnelle, ça veut dire qu'il questionne le croisement de lutte, le sexisme, le patriarcat, le racisme, mais ça peut être la grossophobie, l'homophobie, donc c'est un lieu bien précis de prise de parole. Couplé avec une certaine visibilité, ça veut dire que c'est pas comme si... tout d'un coup, la parole est chargée d'une forme de responsabilité aussi. Donc je sais que ça m'est arrivé, par exemple, dans mon court roman Vénus Poetica, je décris un personnage qui sort d'une voiture et il y a un groupe de jeunes, en fait, elle a une mini-jupe, elle a des bottes, et donc ce groupe de jeunes la critique. Et j'avais mis un groupe de jeunes maghrébins. Et en fait, après, je me suis posé la question, je me suis juste demandé... qu'est-ce que ce mot, en fait, même si c'est ça que j'avais vu, va apporter au texte, alors rien, et surtout va, en termes de reconduction ou aggravation des stéréotypes, qu'est-ce que ça va faire ? Donc je l'ai retiré. Donc, parce que je me dis, en fait, ça renforce un stéréotype. Voilà, un groupe de jeunes maghrébins qui va critiquer une fille qui a une mini-jupe, etc. Donc je l'ai retiré. Mais donc c'est ces endroits-là, simplement, à certains endroits du texte, de me dire, tiens, si cette poésie sociale, elle est aussi au-delà de toucher les cœurs, au-delà de faire un travail littéraire, elle a aussi pour vocation, ou peut-être petite mission avec des gros guillemets, de travailler sur les stéréotypes. Alors je réfléchis quand même à certains endroits de voilà, l'impact du message, l'impact des mots.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez le cul entre deux chaises, hein, je crois que c'est votre expression pour dire que finalement il y a le Congo, que votre peau parle d'elle-même, mais que vous êtes belge aussi, donc qu'on est finalement étrangère dans les deux endroits. On sent bien aussi que le fait d'être venu sur la poésie, sur le tard, et qu'au début vous étiez aussi le cul entre deux chaises, si je le redis comme ça, entre mère qui veut s'occuper des enfants, mais femme écrivaine qui veut aller pleinement dans l'écriture. Est-ce que finalement ce lieu-là, le lieu des mots, le lieu de la littérature, devient le lieu où on se retrouve et où on n'est plus ce cul entre deux chaises, mais où on est vraiment pleinement dans son pays, qui serait celui des mots et de la littérature.
Ouais, ça, c'est joliment dit. Je n'ai pas réfléchi à cette question-là en ces termes-là. Oui, après, je pense que pour répondre à ça, je crois que c'est de nouveau ce que je disais tout à l'heure, l'articulation entre le privé et le public. Je crois que je ne saurais pas être entière et entièrement à cet endroit-là, dans les mots. Il faut quand même que... Voilà, c'est ailleurs. Moi, je me sens hyper alignée aujourd'hui, hyper... je me sens à la fois d'avoir signé chez Iconoclast une espèce de... Voilà, tout à l'heure, je disais une fleur qui s'ouvre, des potentialités. Je sens quelque chose de très apaisé parce que c'est aussi une maison d'édition qui accompagne le texte sur le long terme. C'est comme je sens quelque chose de familial dans l'accueil, dans le respect de ma force de travail, de ma voix. Donc ça m'apaise. Je sens que je suis très apaisée à cet endroit-là et que ça me permet aussi d'être apaisée voilà, à d'autres endroits parce que c'est très bienveillant. Je dirais l'attention qui est portée aux auteurs, du coup, moi, je me sens respectée entièrement. C'est-à-dire que c'est pas comme si voilà, j'étais autrice. Ils savent que, par exemple, c'est plus difficile pour moi de me déplacer et je me sens très respectée là-dedans. Donc aujourd'hui, je suis à un endroit où je me sens très alignée. Étrangement, alors que c'est la crise, il y a une morosité ambiante, c'est difficile de se réjouir pleinement parce qu'il y a plein de gens qui sont sur le carreau dans mes collègues pour le moment. Mais je sens que 2020, ça a été une année... il y a eu deux livres sortis. Il y a ce passage de frontière vers la France avec une énorme diffusion, une énorme visibilité qui, pour moi, influe complètement ma trajectoire. Ça me met de l'apaisement parce que je sais que je suis dans une maison d'édition qui fait confiance à mes projets en cours et mes futurs projets. Et en même temps, le confinement, le fait que ça s'arrête, ça m'a donné du temps pour réfléchir sur la militance, ça m'a donné du temps avec mes enfants aussi. Donc, il y a eu quelque chose de... 2020, pour moi, c'est... Alors qu'il y a un fracas à l'extérieur, il y a un fracas ambiant, je me sens apaisée en fait. Ça m'a mis du calme, ça m'a... Ouais, le terme c'est apaisé. Alors que je suis très angoissée pour l'extérieur, mais en tout cas, là, dans cet équilibre vie familiale, vie professionnelle, dans ce qui va se passer professionnellement par la suite, je suis apaisée.
Ça bouillonne, vous le disiez effectivement à l'extérieur et notamment pour les femmes, je le disais, ça j'imagine que vous le suivez de près aussi. Cet apaisement risque aussi de changer un peu l'écriture, peut-être ou peut-être pas. Quels sont les autres poètes contemporains que vous lisez et qui peut-être vous inspirent ou pas?
Mais là, je viens de... Je relis tout Rimbat. Alors, c'est... Voilà, ça, c'est pour le coup, la question du désir, la question du corps, voilà, très présent. La question aussi de comment nos origines sociales, comment nos origines voilà, influent. Rimbat, j'ai refait tout un trajet aussi chez Karl Nora, qui est poète national belge pour le moment, avec une incursion magnifique en littérature de jeunesse. Du coup, et à cet endroit-là aussi. Et sinon, moi, je lis beaucoup de slameurs et slameuses. Ma maison d'édition, Malmström Révolution, édite des bouclegs, et donc il y a plein de poètes. Voilà, moi, je suis les deux pieds dans ce qui se fait là autour de moi. Des gens qui montent sur scène avec moi et qu'on peut acheter en bouclegs juste après, qui sont des amis, mais qui sont. Voilà.
Brûler, 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 trois brûler pour le titre. Peut-être qu'on pourrait... pourquoi trois brûler et peut-être donner trois exemples de brûler qui sont importants dans votre travail d'écrivain. Brûler parce que le désir, brûler parce qu'on brûle ses ailes aussi.
Ah, c'est... Oui, ça... il y a de ça. Bah, brûler, le premier, c'est pour moi qui me vient à l'esprit, c'est le cramage du burn-out. Donc, ça, c'est le
début du.
Voilà, c'est les cendres à partir desquelles on peut renaître. Donc, ça, c'est le feu qui consume de l'intérieur parce qu'on n'est pas au bon endroit et parce qu'il y a un siphonnage et une absence de sens. Ça peut être un brûler aussi, justement, de sa belle flamme, de l'étincelle. De cette braise collective, de ce feu collectif qui redonne du sens aux actions. Et puis, il y a trois brûlés. Donc, pour moi, si je reviens, c'est la répétition, c'est le rythme, c'est l'anaphore, ce qui sont pour moi constitutifs de cette écriture slam.
Et ce texte brûlé dans ce recueil commence par « Tu es en retard ». Donc, vous l'avez rattrapé, ce retard.
Oui, j'ai l'impression. En tout cas, je ne. C'est terminé. C'est derrière moi, en tout cas, cette espèce de nostalgie de me dire tiens, pourquoi est-ce que cet enfant, avec cette machine à écrire de 8-9 ans, cette machine à écrire virevoltante, cette absence de doute, ce rêve de devenir écrivaine, un jour, en tout cas, cette espèce de nostalgie et de me dire waouh, quel gâchis quand même d'avoir mis 30 ans. Cet enfant dans un frigo, c'est derrière moi. Je sens que il y a quelque chose qui s'est aligné, il y a quelque chose qui s'est réconcilié, voilà. Et que je pense que quand on est aligné, les choses se font de manière assez fulgurante. C'est assez limpide. Il y a quelque chose de très le temps de la girouette. Pour moi, il est derrière moi. Le temps du regret, il est derrière moi. Je sens que c'est ouvert, que le collage va permettre plein de choses, que la littérature de jeunesse c'est autre chose, que le roman c'est autre chose, que la kamishibai c'est autre chose, parce que et que tout ça va pouvoir se faire avec un corps qui avance en âge, parce que probablement que j'aurai du texte moins à tourner comme ça, comme une lionne sur scène dans 20, 30, 40 ans, peut-être que ce sera autre chose, mais je sens là aujourd'hui que c'est tatoué là, la vie s'est tatouée ici, mais je sens que pour la première fois en tout cas, je sens que c'est ce vers quoi je vais et que ça je ne vais pas dévier de cette route-là, en fait.
Finalement, on parle du corps depuis le début, et notamment avec ces textes qui sont de l'ordre aussi du désir, du corps aussi, comme on disait, qui monte sur scène, du corps qui a été fatigué, qui s'est relevé. Et je voulais effectivement finir avec ça, parce que je vous observe et je vois aussi que le corps est presque un chantier chez vous, quelque chose qu'on façonne. Est-ce qu'on façonne le corps? On écrit sur son corps comme on façonne un texte?
En tout cas, ça a été un moment. C'est comme si le marquer, le tatouer sur le corps, c'est marqué à vie. Donc, c'est-à-dire, les mots qui sont là sur mes bras, sur mon torse, ce sont des mots la vie. la poésie, les enfants soleil, le féminisme, la solidarité, la lutte, le désir, la sexualité, sexe rieur, donc la sexualité joyeuse et assumée. C'est comme si c'était un truc pour dire, bon, n'oublie pas en fait. Les tatouages sont juste après le burn-out et je pense que c'était une manière d'inscrire la personne que je voulais devenir et rester, et le fait de ne plus revenir en arrière sur cette question-là. C'est comme presque un manifeste poétique, quelque chose, un engagement vis-à-vis de moi-même qui est là, inscrit dans ma peau.
Merci infiniment, Lisette Lombé. Brûlée, brûlée, brûlée aux éditions Iconoclaste, dans cette collection, très jeune collection Iconopop. Merci infiniment.
Merci beaucoup.